au pays des contes. Bonjour à tous. Eh bien, dans des villages de montagne au nord-ouest de la Turquie, on peut écouter ces histoires. Bah, écoutez-les à votre tour. En des temps très anciens, vivait dans un village une paysanne. Chaque jour, un jeune homme passait devant chez elle et il s'étonnait de la voir déverser dans la rue ce qu'il prenait pour une cuvette de lait. Un matin, ne pouvant davantage réprimer sa curiosité, il interpella la femme. « Pourquoi jettes-tu tout ce lait chaque jour dans le caniveau ?»« Du lait ?» rétorqua la femme, sans daigner adresser un regard au jeune homme. « Pas du tout. C'est l'eau avec laquelle ma fille se lave les mains. » Puis elle rentra précipitamment chez elle et elle referma la porte derrière elle. Interloqué, le jeune homme se pencha sur le caniveau et il plongea la main dans le liquide qui s'écoulait. Ah, à n'en pas douter, ce n'était pas de l'eau, mais bien du lait. Rentré en courant chez lui, il dit à sa mère « Il y a au village une femme qui déverse du lait dans la rue chaque fois que je passe devant chez elle. Aujourd'hui, je lui en ai demandé la raison. Sais-tu ce qu'elle m'a répondu ? Ce n'est pas du lait. C'est l'eau avec laquelle ma fille s'est lavé les mains. Oh, j'ai quand même vérifié. C'était bien du lait. Oh, cette fille doit être d'une grande beauté pour transformer en lait l'eau avec laquelle elle se lave. Voyons, mon fils, répliqua la mère, c'est impossible. Et le jeune homme s'obstina. Mère, crois-moi, je l'ai vue de mes propres yeux. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Admettons, dit la mère. Mais en quoi cela nous concerne ? Ne m'as-tu pas dit récemment que le plus grand bonheur pour moi serait que je me marie et fonde un foyer et qu'il était temps d'y penser ? Nous ne devons pas laisser passer une telle occasion. Je t'en prie, va voir cette paysanne et demande-lui pour moi la main de sa fille. Or, la paysanne n'avait pas d'enfant et encore moins une fille. Mais elle avait trouvé très drôle de se jouer du jeune homme. Quand la mère du garçon se rendit chez la paysanne pour faire sa demande, elle souhaita également rencontrer la jeune fille. Mais la paysanne ne la laissa pas entrer, prétextant que sa fille était malade et devait garder le lit. « De toute façon, ajouta-t-elle, à quoi bon la voir ? Puisque je vous affirme qu'elle est très belle et très travailleuse. » La mère du jeune homme crut la paysanne sur parole, et le mariage fut conclu. Quand le jour de la célébration arriva, la paysanne vit s'arrêter devant sa porte une calèche. La mère du garçon envoyait chercher la fiancée. Oh, elle s'affola. Comment allait-elle se tirer d'affaire ? Qui allait-elle installer dans la calèche ? Ah, une idée lui vint. Elle se précipita dans la cuisine, versa dans une jatte de la farine, qu'elle pétrit avec de l'eau, puis elle donna à la pâte ainsi obtenue une forme humaine. Tandis que la pâte séchait, elle monta dans sa chambre changer de vêtements. Dès que la poupée de farine et d'eau fut sèche, elle la revêtit d'une robe de mariée et lui posa la couronne de mariée sur la tête. Et satisfaite du résultat, car rien ne différenciait la poupée d'un être humain, elle l'installa dans la calèche et monta à son tour. La satisfaction de la paysanne fut de courte durée. Pendant le voyage, elle s'interrogeait. Qu'allait-il advenir d'elle quand elle arriverait chez le fiancé avec cette poupée ? La vérité éclaterait immanquablement et alors ? Elle cherchait désespérément une solution quand la calèche vint allonger un lac assez profond. Ah, la paysanne réagit sur le champ. Elle dévêtit la poupée, la jeta dans le lac, puis s'écria « Oh malheur ! Oh malheur, ma fille est tombée dans le lac !» Le cocher, alerté par ses cris, mobilisa la calèche, dépassant sa masseur autour de la passagère, qui n'en finissait pas de gémir et de se lamenter. Très vite, la nouvelle se répandit et arriva jusqu'aux oreilles du fiancé. Le jeune homme, bouleversé, accourut avec ses amis sur les lieux du drame. Ils fabriquèrent à la hâte un radeau, puis partirent sur le lac avec des filets empruntés à des pêcheurs. Tandis que les jeunes gens naviguaient sur l'eau, trois fées jouaient à la balle au fond du lac. En apercevant les filets, elles se dirent « Oh, nous pourrions profiter de l'occasion et nous laisser prendre dans ces filets pour aller voir à quoi ressemble le monde. Qu'en pensez-vous ?» Elles n'en finissaient pas de discuter, de tergiverser, quand un filet effleura l'une d'elles. « Oh, si vous ne vous décidez pas, dit la fée à ses sœurs, moi j'y vais. Adieu !» Et elle agrippa le filet. Sur leur radeau, les jeunes gens sentirent un de leurs filets s'alourdir et ils s'empressèrent de tirer de toutes leurs forces. Et une jeune fille émergea. Oh, elle était aussi belle que la lune au 14e jour. La paysanne aussitôt s'écria « C'est ma fille !» On fit monter la fée dans la calèche. La paysanne la vêtit à la hâte de la robe de mariée, lui posa sur la tête la couronne de mariée et soupira enfin de soulagement. La catastrophe était évitée de peu. La fée fut accueillie à grands frais à la maison du fiancé. Et les festivités du mariage durèrent 40 jours et 40 nuits. Mais une ombre plana bientôt sur le bonheur des jeunes époux. Le jeune homme, pour taquiner sa femme, ne cessait de l'appeler « fille de paysan », sans jamais se soucier de son vrai nom. Et elle, vexée, elle prit le parti d'assumer normalement les obligations domestiques, mais de ne pas adresser la parole à son mari. Rapidement, le jeune homme trouva la situation insupportable et se demanda comment y mettre fin. Et un jour, il dit par boutade à sa femme « Si tu ne veux pas parler, je t'enferme dans ta chambre. » Pour une fois, la fée daigna ouvrir la bouche et déclara « Tu m'enfermes ? Eh bien, soit, si tel est mon destin. » Oh, agacé par cette réponse, le jeune homme prit sa femme au mot et la condamna à la chambre. À compter de ce jour, comme il avait trois sœurs, il confia la conduite de la maison à l'aînée. Et le temps passa. La sœur aînée vaquait comme d'habitude à ses occupations quand elle s'interrogea. Oh, je me demande bien ce que peut faire cette fille à longueur de journée. Et elle décida d'aller regarder discrètement par le trou de la serrure. La fée était assise sur un coussin posé sur le sol. Elle était en train de dire « Brûle mon feu !» La sœur entendit alors toutes sortes de bruits et de craquements, puis vit un brasero rempli de charbon incandescent surgir de lui-même dans la chambre et s'arrêter devant la fée. Celle-ci dit ensuite « Viens, mon huile !» Aussitôt apparut une poêle pleine d'huile qui se posa sur le feu. Dès que l'huile entra en ébullition, la fée y plongea les deux mains et s'exclama « Que mes 10 doigts se transforment en poissons et se fricassent !» Au même instant, 10 poissons grésillèrent dans la poêle. Dès qu'ils furent cuits, la fée les déposa dans une assiette et les fit parvenir à son mari pour son déjeuner. La sœur fut piquée dans son amour-propre. Si cette fille était capable de faire cela, elle pouvait en faire autant. Elle se précipita dans la cuisine et s'écria aussitôt « Brûle mon feu !» Il ne se passa rien. Alors, elle alla chercher elle-même le brasero, alluma le charbon de bois et ordonna « Viens, mon huile !» Il ne se passa toujours rien. Elle alla donc chercher l'huile, la versa dans une poêle qu'elle posa sur le brasero et quand l'huile fut bouillante, elle y plongea les doigts en disant « Mes 10 doigts, transformez-vous en autant de poissons qui bientôt feront les délices de mon frère. Oh » Le résultat ne se fit pas attendre et les hurlements de douleur de la sœur eurent au fait d'alerter toute la maisonnée. On se précipita vers elle, on l'interrogea. Elle expliqua qu'elle avait fait comme la fille de paysan. À cette seule différence près qu'elle s'était gravement brûlé les doigts. Ah, le jeune homme fut navré de voir sa sœur aînée handicapée et il dut confier les obligations domestiques à sa sœur cadette. Quelque temps plus tard, assise à la fenêtre, la cadette vit la fée aller chercher de l'eau au puits du jardin. C'est alors qu'un incident survint. Au moment où la fée posait le seau sur la margelle, il lui échappa des mains et tomba au fond du puits. Oh, sans se départir de son calme, celle-ci s'arracha un cheveu et le fit pendre dans l'ouverture du puits. Curieusement, le cheveu se mit à pousser, jusqu'à atteindre le fond. La fée n'eut plus qu'à tirer sur le cheveu pour faire remonter le seau. Ah, folle de jalousie, la cadette songea qu'elle pouvait faire aussi bien que cette fille. Elle alla au puits, fit tomber le seau, puis elle s'arracha un cheveu et le laissa pendre dans l'ouverture du puits. Mais le cheveu ne s'allongea pas d'un pouce. Alors elle se pencha autant qu'elle put et engagea profondément la tête dans le puits, dans l'espoir que ses cheveux atteindraient le fond. Mais elle perdit l'équilibre, culbuta et se noya. Accablé par ce second malheur, le jeune homme se rendit chez sa femme. Il lui hurla « Par ta faute, une de mes sœurs est handicapée, l'autre morte noyée. Pourquoi te comportes-tu ainsi ? Parle, sinon tu ne quitteras plus jamais ta chambre, pas même pour aller dans le jardin. » Eh bien, soit, se contenta de répondre la fée. Alors son mari la quitta furibond et dut confier à sa plus jeune sœur la responsabilité de la maison. Et la vie reprit son cours, jusqu'au jour où la fée entendit la jeune sœur faire les 100 pas dans la cuisine en gémissant. « Oh, nous n'avons plus de pain, que faire, mon Dieu, que faire ?» Ah, la fée n'hésita pas un instant, retroussa ses manches et ordonna « Viens, fourneau !» Le fourneau arriva à grand bruit, au beau milieu de la chambre. Alertée par le vacarme, la jeune sœur se précipita à la porte de la fée et glissa un œil par le trou de la serrure. Elle entendit la jeune femme dire « Brûle mon feu !» et vit les braises commencer à rougeoyer dans le fourneau. Et la fée poursuivit « Viens, pétrin !» Et un énorme pétrin surgit comme par enchantement. Après quoi, la fée se dévêtit, sauta dans le fourneau, attisa le feu avec ses cheveux et ressortit. Puis elle prit de la pâte dans le pétrin et moula plusieurs pains qu'elle enfourna. Dès qu'ils furent dorés et croustillants, elle les envoya à son mari. La jeune sœur blêmit de jalousie. Elle songea, « Si mon frère apprend que cette fille est capable de faire du pain comme par magie, il risque d'oublier ce qui s'est passé avant et il se réconciliera avec elle. Je vais lui prouver que ça n'a rien de difficile et que je suis capable d'en faire autant. » Elle revint de ce pas dans la cuisine, demanda au bois de s'enflammer dans le fourneau, au pétrin de pétrir de la pâte, mais il ne se passa rien. Alors elle alluma elle-même le fourneau, mélangea de la farine et de l'eau dans le pétrin, puis elle entra dans le fourneau pour attiser les flammes avec ses cheveux. C'est alors que d'un coup, elle s'embrasa et périt carbonisée. Fou de douleur, le jeune homme courut chez sa femme. « Mais que t'ont fait mes sœurs pour que tu t'acharnes contre elles et brises leur vie ? » s'exclama-t-il. Mais la fée resta murée dans son silence et le laissa sans réponse. Claquant la porte derrière lui, le jeune homme décida de quitter cette maison. À peine était-il parti que la fée appela « Cruchon à huile, cruchon à miel, venez ici !» 2 petits cruchons arrivèrent prestement. « Mes amis, dit la fée, je vous demande d'aller au marché et de me rapporter de l'huile et du miel. Dépêchez-vous. » Les 2 cruchons sortirent de la chambre en se dandinant, trouvèrent la porte d'entrée ouverte et se mirent en chemin. Quelques mètres plus loin, ils dépassèrent le jeune homme sorti juste avant eux. Quel ne fut pas l'étonnement de ce dernier de voir des cruchons marcher comme des humains. Il décida de les suivre discrètement. Arrivés au marché, les cruchons s'arrêtèrent d'abord chez le marchand d'huile, qui remplit l'un d'eux d'huile, ensuite chez le marchand de miel, qui versa dans l'autre du miel, puis s'en retournèrent qu'à un cas à la maison, toujours suivis par le jeune homme. Et hélas, à la porte d'entrée, pour s'être peut-être trop dandiné, le cruchon à huile heurta le cruchon à miel et lui cassa le bec. Oh, celui-ci fondit en larmes et dit à l'autre « Regarde ce que tu as fait. Je vais dire à ma maîtresse qu'elle t'en fasse autant. » « Mon frère, je ne l'ai pas fait exprès. Si notre maîtresse s'avise de prendre un bâton pour me briser le bec, je lui rétorquerai sur la tête de ton père le soleil, de ta mère la lune et de tes frères et sœurs les étoiles. Ne me frappe pas. Et elle ne fera rien. » Sitôt entrés, les petits cruchons se rendirent directement chez la fée. Pénétrant le premier dans la chambre, le cruchon à miel ne retint plus ni ses larmes, ni ses plaintes. « Regarde, maîtresse, ce que le cruchon à huile m'a fait. Il m'a écorné la lèvre. » La fée voulut punir le coupable et lui asséner des coups de bâton. Mais celui-ci s'écria aussitôt « Fée, je t'en supplie, sur la tête de ton père le soleil, de ta mère la lune et de tes frères et sœurs les étoiles, ne me frappe pas. Ce n'est pas de ma faute, c'est arrivé comme ça. » La fée lâcha le bâton. Au même instant, le jeune homme fit irruption dans sa chambre et lança « Pour l'amour de ton père le soleil, de ta mère la lune et de tes frères et sœurs les étoiles, vas-tu enfin parler et m'expliquer ce que tout cela signifie ?» Pour la première fois, la langue de la jeune femme se délia. Elle commença d'une voix lourde de reproche « M'as-tu une seule fois demandé qui je suis vraiment ?» Et d'où je viens ? Non, jamais. Par contre, tu n'as pas cessé de te moquer de moi en m'appelant fille de paysan. Et quand bien même j'en serais une, était-ce une raison pour m'humilier ? Tu m'as fait tant de peine que tu méritais une leçon. Voilà pourquoi j'ai refusé de te parler. Et le jeune homme comprit combien il s'était montré indifférent envers celle qu'il avait prise pour femme. C'est vrai. Concéda-t-il. Je ne sais rien de toi. Accepterais-tu aujourd'hui de me le dire ? À ces mots, la jeune femme se lança dans un long récit. Mes sœurs et moi, nous sommes trois fées qui vivions au fond d'un lac. Un jour, alors que nous jouions à la balle, nous avons aperçu des filets de pêcheurs. Et une idée a germé dans notre esprit. Pourquoi ne pas profiter de l'aubaine pour nous laisser remonter à la surface et voir si le monde est aussi beau qu'on le dit ? Oh, nous hésitions. Un filet est passé près de moi, je m'y suis accrochée. Mes sœurs sont restées. À peine avais-je la tête hors de l'eau qu'une femme s'est écriée « C'est ma fille !» Après, tout a été très vite. Je me suis retrouvée installée dans une calèche, la femme m'a vêtue et je suis arrivée dans cette maison où l'on se préparait à célébrer une noce. On m'accueillit comme si j'étais la fiancée. Tu connais la suite ? Notre mariage, mon mutisme, mon enfermement injuste, la mort de tes sœurs, dont tu m'as tenu responsable, alors qu'elles furent tout simplement victimes de leur jalousie. Ah, tu as eu raison, reconnut le jeune homme. Je méritais une punition. Mais je pense que celles que j'ai subies jusqu'à ce jour sont plus que suffisantes. Alors, repartons d'un bon pas, veux-tu ? Les jeunes époux se réconcilièrent et à compter de ce jour, ils connurent un bonheur sans nuages. Des temps toujours très lointains, vivait un valet de ferme en quête d'un emploi. Sa femme était enceinte. Peu de temps avant la naissance, il alla dans un village frapper à une porte et expliqua « Ma femme va bientôt accoucher. Pourriez-vous l'héberger ?»« Mais Nul ne le connaissait, car il venait d'un autre pays, et on le pria de s'en aller. Il parcourut tout le village, renouvelant chaque fois la même demande, mais personne ne voulut lui prêter assistance. Il s'entendait répondre « Je ne peux rien pour votre femme » ou bien « Je ne sais pas procéder à un accouchement ». Et la femme n'eut d'autre recours que de monter sur la montagne, où elle mit seule son enfant au monde. Quand elle voulut le prendre dans ses bras, quelle ne fut pas sa stupeur. L'enfant était un serpent noir. Épouvantée, la femme le jeta au loin. Elle s'apprêtait à redescendre de la montagne, quand le petit serpent rampa vers elle, s'enlaça autour de sa cheville et lui dit « Mère, je suis un garçon. Je m'appelle Emin Youssouf. Enveloppe-moi dans ta chemise. Quand j'aurai faim, accepte que je t'aide à ta poitrine. Je te mordrai à peine. » La femme soigna le serpent avec amour. Elle l'emportait dans ses bras partout avec elle. Quand le serpent devint trop gros, elle le mit dans un panier. Quand il devint trop long, elle l'installa dans une ruche. Et quand la ruche ne suffit plus, elle lui prépara sa couche dans une hotte. Un jour, le serpent dit à la femme « Mère, je veux épouser la princesse. Va au palais et dis au sultan, conformément à la volonté de Dieu et à la parole du prophète, ta fille doit devenir l'épouse de mon fils Emin Youssouf. » Quand la femme se présenta avec son mari aux portes du palais, leur pauvreté était si criante qu'on les prit pour des mendiants et qu'on les renvoya avec une aumône. Ils firent une seconde tentative qui, une nouvelle fois, échoua. « Il vaut mieux renoncer, mon fils, » dirent les parents au serpent. « Jamais nous n'obtiendrons une audience auprès du sultan. » Le serpent se fâcha. « Retournez encore, » s'écria-t-il, « sinon je vous mords. » Ils s'en retournèrent donc pour la troisième fois au palais. Ce jour-là, on les laissa enfin entrer et on les conduisit auprès du sultan. « Que la paix soit avec toi, ô Seigneur, » lui dirent-ils. « Conformément à la volonté de Dieu et à la parole du prophète, notre fils Emin Youssouf veut épouser ta fille. »« Ah, je ne peux évidemment pas m'opposer à la volonté de Dieu, » répondit le sultan. « Mais je n'accepte que si vous vous pliez à mes conditions. Je vous accorde 40 jours. Si passé ce délai, vous n'avez pas fait ce que je vous demande, vous serez pendu le 41e jour haut et court. » Quelles sont ces conditions ? Vous devez construire un palais plus haut que le mien, dont le côté exposé à la lune sera en or, le côté exposé au soleil en argent, avec un sol en or et un toit en argent, et recouvrir de tapis précieux le chemin entre ce palais et le mien. N'oubliez pas, en 40 jours. Ah, le valet et sa femme rentrèrent chez eux, affolés. « Mon fils, dit la mère au serpent, chasse-toi cette idée de la tête, sinon ton père et moi serons pendus. » « Pour quelle raison ? S'enquit le serpent. » La mère exposa alors les exigences du sultan. Oh, le serpent la rassura. « Ne crains rien, mère, écoute-moi bien. La 38e nuit, tu iras sur la montagne où tu m'as mis au monde. » Là, tu crieras « Ohé, montagne et rocher, ohé !» Une voix te répondra. Alors tu diras « Je vous transmets le bonjour d'Emin Youssouf. Il a besoin sur le champ de deux maçons et d'un charpentier. » La 38e nuit, la femme suivit les conseils de son fils. Le lendemain, quand le sultan se leva et regarda par la fenêtre, il dit à sa femme « Ah, cette fois, nous allons devoir nous séparer de notre fille. » « Comment le sais-tu ? Le valet de ferme et sa femme ont construit un palais. Regarde comme il étincelle. On dirait que le soleil s'est levé du côté de la lune. »« Bah !» rétorqua la sultane. « En admettant même que le côté exposé à la lune soit aussi beau que tu le dis, ils n'ont certainement pas eu les moyens d'apporter autant de soins à la décoration intérieure, ni de recouvrir le chemin jusqu'à nous de tapis de grand prix. Ce qui signifie qu'ils n'auront pas notre fille. » La 39e nuit, le serpent réveilla sa mère. « Mère, Lève-toi et monte sur la montagne où tu m'as mis au monde. Là, tu crieras « Ohé, montagne et rocher, ohé !» Une voix te répondra. Alors tu diras « Je vous transmets le bonjour d'Emine Youssouf. Il a besoin d'ici demain matin de 40 chameaux chargés de tous les biens les plus précieux. Et que rien ne manque. » Dès le point du jour, le sultan se précipita à la fenêtre et y crut rêver. Le palais regorgeait de tout ce qu'il y avait de plus raffiné, de plus fastueux, et le chemin jusque chez lui était recouvert des tapis les plus rares. Et le sultan ne put que s'incliner, et le mariage fut conclu. Quand les festivités commencèrent, la femme mit le serpent dans la hotte et l'emporta dans la chambre nuptiale. « Ma fille, dit-elle à la princesse, mon fils est né serpent. Mais tu ne dois pas avoir peur de lui. » « Je n'ai pas peur, » répliqua la jeune fille. Oh, sa soumission n'avait en soi rien de surprenant. Il était courant dans ces régions que les parents décident du choix du fiancé ou de la fiancée pour leurs enfants, sans même que ces derniers se connaissent. Après avoir déposé la hotte, la femme quitta la chambre et ferma la porte derrière elle. Mais poussée par la curiosité, elle regarda par le trou de la serrure. Oh, quel ne fut pas son étonnement de voir le serpent se dresser sur sa queue, se tortiller pour se débarrasser de sa peau de serpent et se métamorphoser en un superbe et rayonnant jeune homme. Ouvrant violemment la porte, elle se précipita sur la peau et la jeta dans la cheminée où brûlait un grand feu. « Non, mère !» s'écria le jeune homme. « J'en ai besoin !» C'était trop tard. Déjà, la peau n'était plus que cendre. « Puisque tu es ma femme, » dit le jeune homme à la princesse, « Suis-moi. » Et se tournant vers sa mère, il lui dit « Prends une barre en fer et mets aux pieds des chaussures en fer. Peut-être réussiras-tu à nous rattraper. » Tous les trois s'engagèrent sur la route. Ils marchèrent, marchèrent, pendant des heures. Le jeune homme et la princesse en tête, la mère non loin derrière. Mais au moment où celle-ci allait les rejoindre, le jeune homme se transforma en un peuplier et la princesse en un lierre qui s'enroula autour de son tronc. Arrivée devant le peuplier, la mère s'abandonna à son chagrin. D'une voix étranglée par les sanglots, sans cesse elle répétait « Peuplier, peuplier, si je brise tes branches, c'est mon cœur qui sera brisé. Si j'arrache le lierre qui t'enserre, c'est ton cœur, mon bien-aimé, qui sera arraché. » Combien de temps s'éleva sa plainte ? Nul ne le sut jamais. Aujourd'hui, c'était des contes de Turquie. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir et à bientôt, j'espère.